Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Par les temps qui courent. On écoute les artistes pendant une heure tous les soirs et on est ravis ce soir de recevoir Pierre Jourdan.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Voilà, ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent.
Marie Richeux, avec Pierre Jourde.
Ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
Ce sera l'histoire du trajet, plein de détours, d'aventures, de malheurs et de fatigues, de mots et d'amours plus ou moins contrariés qu'une femme effectue pour rejoindre sa mère dans un tombeau, allant contre la volonté de celle-ci qui ne voulait pas partager l'éternité avec sa fille. Ce sera l'histoire d'un autre trajet, imbriqué et interdépendant, deux fils et la femme de l'un d'entre eux relient la vie de Créteil à une maison familiale auvergnate dans le but d'y déménager le canapé de leur grand-mère à la demande de la mère. Dans la cabine de cette camionnette, ça parle, aussi cruellement que le permettent les voyages fraternels, aussi tendrement que le permettent les longs voyages fraternels. Ça parle comme sur le canapé du docteur Freud, dont une publicité tapageuse figure en exergue de votre roman, Pierre Jourde, pour en vanter les finitions particulièrement soignées, une ironie qu'on déguste quand on réalise que ce texte a peut-être à voir avec ce qui se finit en effet. Bonsoir Pierre Jourde. Soyez le bienvenu, le voyage du canapé-lit est publié aux éditions Gallimard et il y est d'abord beaucoup question d'objets.
Tous ces objets qu'on a connus, à qui vont-ils appartenir? Que vont-ils devenir? Ça, je n'en sais rien. Oui, l'harmonica, je vais jouer l'harmonica, mais ces outils pour quel jardin, je n'en sais rien. Qui lira ces bouquins d'histoire, qui sourira dans son miroir, et ses habits, je n'en parle pas, qui portera ce blouson-là, ce que je veux et croiser quelqu'un qui l'a sur le dos. Je tuerai ce salaud ou j'en sais rien. Les objets vivent plus longtemps, les objets vivent plus longtemps que les gens. Pas toujours évidemment, mais souvent les objets vivent plus longtemps que les gens. Peut-être pas la boîte d'allumettes, ni la cigarette.
C'est peut-être chez Mémé que j'ai commencé à nourrir une certaine méfiance vis-à-vis des objets. Des objets en général. Ils me paraissaient trop silencieux pour être tout à fait honnête. Ils se fermaient sur eux-mêmes, sur un mutisme chagrin qui ne me disait rien qui vaille. Ça devait cacher quelque chose. Les objets étaient absolument bondés d'eux-mêmes. En eux, il n'y avait qu'eux. Contrairement aux êtres vivants, qui se nourrissent, qui évoluent, qui engendrent, qui sont toujours comme à côté d'eux-mêmes. Et pourtant, les objets donnaient l'impression d'avoir une sorte d'intériorité inaccessible. Comme pas mal de gens, il m'arrivait d'imaginer qu'une fois que j'avais le dos tourné, ils tombaient le masque, et devenaient enfin ce qu'ils étaient réellement, et que je ne pouvais pas voir. Peut-être qu'en me retournant très vite, je parviendrai à les surprendre. Mais je n'y avais jamais réussi. Je les soupçonnais de comploter contre moi. Cette hypothèse était corroborée par leur constante mauvaise volonté. Avec une obstination sournoise, ils se brisaient, chutaient, refusaient de s'ouvrir, de se fermer, tombaient en panne, roulaient dans les coins où l'on était sûr de ne jamais parvenir à remettre la main dessus, me cognaient, disparaissaient mystérieusement et à jamais. Ils paraissaient avoir la capacité d'attirer et de condenser tout l'ennui toute la mélancolie diffuse dans l'air ambiant. Bref, je sentais que j'aurais des embêtements avec les objets.
Pierre Jourde, c'est un extrait de votre roman Le voyage du canapé lit, et juste avant, une chanson tronquée de Philippe Catherine pour nous mettre en mouvement. Et précisément, parmi tous les pouvoirs que vous semblez comme ça éventuellement reliés aux objets, est-ce qu'il y a celui de vous lancer dans l'écriture, éventuellement de mettre en marche un texte ?
Oui, il me semble que en Auvergne, par exemple, lors de longues promenades silencieuses hors de toute société, j'étais nécessairement frappé par la... un peu ce que j'essaye de dire dans ce dans le texte qui vient d'être lu, c'est-à-dire à la fois un sentiment de familiarité et d'intimité sur laquelle on se referme hors de la société des hommes, et cette intimité même, pardon, nous renvoie à une étrangeté, unheimliche, comme dit l'autre.
Et le rapport avec les objets.
Et creuser cette... comment dirais-je, cet unheimliche appel à, est un appel, voilà. Un appel à être creusé. Je crois que j'ai eu envie d'écrire en étant saisi, un peu à la manière sartrienne, hein, dans la nausée, par l'étrangeté de la présence d'un objet, plus que par la présence d'un être humain.
Et c'est une étrangeté qui vous saisit et demande à ce qu'elle soit dévoilée, demande à ce que, en gros, on la, comme on la déplie, c'est ça,
parce que c'est ça.
Ce que vous décrivez
un
très
dépli,
bien,
exactement.
Ouais, ce que vous décrivez très bien dans ce texte, c'est leur densité mystérieuse aux objets, c'est-à-dire qu'ils sont comme refermés sur eux-mêmes, alors que les humains seraient un tout petit peu plus ouverts. Et quoi, l'idée, ce serait avec ce texte-là, plus le temps avance, de déplier le canapé lit pour savoir ce qu'il a à nous dire.
En l'occurrence, oui. Alors, c'est un dépli qui n'est pas facile parce que, comme je dis, ils sont bondés d'eux-mêmes, ils sont toujours et partout eux-mêmes. Un être humain, c'est pas ça. Donc, c'est plus, d'une certaine manière, c'est plus simple à déplier un être humain parce qu'il y a déjà cette, il y a déjà ce dépli qui est en lui. Les objets, il y a pas de saisie. Il n'y a pas de saisie. C'est pour ça qu'ils nous renvoient, en fait, beaucoup plus fondamentalement au mystère de la présence. Et bien là, je sens qu'on dérive dans de l'ontologie, ce qui est un peu, c'est vrai, le propos de ce livre. Il y a d'ailleurs des discours ontologiques dans cette camionnette. Mais alors, de l'ontologie pour rire, si on veut.
Quand on rencontre ces deux frères, ils ont une sorte de mission. Quelle est leur mission, Pierre Jourde?
Alors, il s'agit de récupérer ce qui reste, et c'est pour ça que la chanson de Philippe Catherine était parfaite. Les objets vivent en général plus longtemps que les hommes. Bah oui, le canapé lit a vécu plus longtemps que ma grand-mère, qui en était l'heureuse propriétaire. Ma grand-mère était... Mémé, si tu m'entends, pardonne-moi. J'essaierai de me rattraper. Ma grand-mère était quand même une créature assez terrible qui a empoisonné la vie de ma mère, jusque et y compris dans sa mort, puisqu'elle a laissé ce terrible testament où elle disait « Je ne veux pas que ma fille soit enterrée avec moi », ce qui était d'une certaine manière la maudire pour l'éternité. Là, je pense que le docteur Freud a ou le docteur Lacan ont du boulot. Et ma mère, qui n'avait pas été aimée par sa mère... fille unique, hein, qui n'avait pas existé pour elle d'une certaine manière, prend en charge ce canapé, ou du moins, et c'est là que ça devient intéressant, nous le fait prendre en charge à sa place. C'est-à-dire nous charge de transporter le corps grand maternel, l'incarnation du corps de sa mère, pour en quelque sorte faire comme s'il y avait piété filiale, faire comme s'il y avait enterrement, obsèque, parce que l'emmener en Auvergne, l'emmener dans la maison ancestrale, c'est bien en fait réaliser ce deuil, cet enterrement qui n'a pas pu vraiment avoir lieu, et en même temps enfin s'en débarrasser.
Mais non, vous spoiliez complètement un moment, un twist de l'histoire hyper drôle,
Pierre Jourde.
Je
n'ai rien dit.
Mais en tout cas, ça me permet d'entrevoir le canapé lit autrement. C'est-à-dire qu'autant j'avais vu plein de choses, autant je n'avais pas vu le corps lourd et sans vie de la grand-mère qu'on transporte dans une camionnette comme en fait dans un corbillard, en fait, qui traverse la France.
Oui, d'ailleurs, ce livre fait suite à Pays perdu, où je raconte l'itinéraire du Courbillard qui emmène mon père vers sa dernière demeure de Créteil à Lussault, ce qui donne à ce voyage évidemment dans une espèce d'épaisseur temporelle dans l'histoire de la famille qui est assez étonnante.
Ouais. Et vous permet de relier deux lieux, et je pense que c'est assez intéressant qu'on parle presque de la géographie de ce texte-là. Donc c'est un trajet en camionnette, mais c'est aussi un trajet qui regarde fortement les deux points, les deux extrémités, comme souvent dans les trajets, à savoir Créteil et ce village d'Auvergne et cette maison ancestrale. Commençons par Créteil, Pierre Jourde. C'est le lieu de quoi dans le roman ?
Ah bah Créteil, d'abord, c'est quand même nowhere, Créteil.
Hein. Ville nouvelle par excellence, région parisienne.
Il y a une chanson, je crois que c'est de Pierre Perret qui termine, ou de Renaud, qui termine par « à Créteil », c'est-à-dire le lieu le plus accablant du monde. La banlieue dans ce qu'elle a de plus... De plus triste, de plus nulle part.
Et ce n'est pas que ça, et votre texte le démontrera quand même. Hein.
Alors, c'était un lieu assez curieux, parce que c'était un lieu d'émigration de familles auvergnates qui venaient y faire de la brocante, de la récupération de peaux de lapin et du maraîchage. C'est pour ça qu'on est là, en fait, c'est à cause de cette émigration-là. Et le parcours de Créteil à Lussault, c'est le parcours du retour à la case départ, du retour aux origines, de là d'où ils sont venus.
Et ce n'est pas les seules migrations d'ailleurs, parce qu'à Créteil il y a plein de gens de plein d'autres endroits, mais c'est quand même aussi la région parisienne, ce qu'on appelait la banlieue parisienne, des grands ensembles, une architecture. Et au milieu de ça, au milieu de ce que vous appelez le nowhere en suivant des chanteurs français, vous décrivez aussi des scènes qui sont des scènes d'un voisinage le plus chaleureux, des hommes s'effondrent à l'annonce de la mort d'une femme quand une maison est vendue. Il y a quelque chose comme ça d'un tissu entre les gens qui est l'inverse de l'impersonnalité des banlieues qu'on peut décrire, Pierre Jourde.
Oui, alors c'est assez curieux parce que je suis né là. Et avec mon arrière-grand-mère, j'allais chercher de la luzerne pour les lapins à l'endroit où se trouve actuellement, ça ne nous rajeunit pas, l'hôpital Mont-d'Or. C'est-à-dire que c'était un village, c'était la campagne, et
un
en même temps...
Un gros CHU, faut quand même se figurer Mont-d'Or, c'est tout sauf la campagne.
C'est gigantesque. Et en même temps, se construisait ce qui s'appelle le Mont-Mélie, qui est un des premiers grands ensembles français, dans une espèce de plateau boueux, qui était un peu pour mes parents, et mes grands-parents, le repoussoir, quoi, l'endroit un peu, le Chicago local. Et donc, c'est un monde de petits artisans, de petits maraîchers, quelque chose vraiment entre la paysannerie et la banlieue, sur laquelle, je dois dire, ma mère avait une sorte de royaume. D'abord parce que c'était une grenouille de bénitier, donc c'était en quelque sorte la personnalité marquante de la paroisse de Créteil, donc elle connaissait tout le monde et notamment l'univers catholique. Et puis surtout, bon, c'est un livre aussi sur l'avarice et la générosité, parce que je n'ai pas dit que le canapé-lit, enfin la première motivation quand même, avant d'être une motivation psychanalytique, c'est une motivation d'économie. On ne laisse pas perdre. Dans ce monde-là.
On n'aura pas à l'acheter.
Voilà. On ne laisse pas perdre. Si on l'achetait, ça coûterait cher. Sauf que, évidemment, le véritable économe dépense beaucoup d'argent pour être économe. C'est exactement ce qui s'est passé pour le canapé. C'est-à-dire que ça a coûté beaucoup plus cher que si on en avait acheté un neuf.
Bref. C'est-à-dire l'essence, louer une camionnette, voilà, payer des péages et compagnie.
Voilà, c'est ça. De sorte que le personnage de ma mère dans le livre est un espèce de condensé entre une tradition d'avarice sordide, qui est celle de tous mes grands-parents et aïeux, et de générosité complètement désordonnée, qui était une espèce de projection sur l'univers entier, et dans l'univers entier il y a n'importe qui, de cette générosité qui ne... Voilà, ça pouvait tomber sur n'importe qui, comme la grâce divine.
Si bien que un peu n'importe qui, au moment où, à la fin du roman, la maison de la mère est vendue, un peu n'importe qui s'arrête, les faire part du décès n'ayant pu être complètement exhaustif, et constate qu'on vend la maison, et s'effondre. C'est des moments qui sont... Oui, assez beau quand par ailleurs votre mère rejoint le tombeau de la grand-mère contre sa volonté. Il y a comme une sorte de... presque de justice.
Oui, oui. Vous savez, un effet constant chez Proust, c'est de confronter l'opinion qu'il a d'un personnage avec le regard qu'on a un autre qui tout à coup vient complètement déséquilibrer cette
La première, mère que vous connaissiez n'était pas la mère,
la mère que je connaissais. Je la connaissais, hein, c'était ma mère. Et tout à coup, un autre personnage arrive qui me renvoie... Alors, chez Proust, c'est souvent une désillusion, c'est souvent une remise à plat. Là, c'était le contraire. Je me suis tout à coup aperçu que... Moi, j'étais le nez dessus. On est le nez sur sa maman, évidemment. Donc, je voyais pas complètement ça. M'a renvoyé à une aura... mais tiens, bah, elle est morte, mais j'apprends maintenant qu'elle pouvait faire pleurer un gros maçon bourru rien que parce qu'elle était plus là, quoi.
La conversation se tisse entre les deux frères et le personnage de Martine, qui est la femme de l'un d'entre eux, dont on parlera plus tard, parce qu'il me semble que sa place n'est pas complètement inintéressante, Pierre Jourde.
En fait, je l'ai mise parce qu'il fallait une femme,
c'est un quota. Mais je suis sûre que ce quota vous sert à autre chose, d'un point de vue littéraire.
C'est généreuse.
Ouais. On en reparlera, comme ça vous évitera un propos misogyne inutile. Et donc, ils parlent, ces deux garçons, j'ai envie de les appeler de garçons, parce qu'ils sont vraiment des fils quand même dans cette camionnette-là.
Mais c'est terrible, oui.
Ils sont des fils et ils sont aussi des Sherazades, notamment le narrateur, qui va d'anecdote en anecdote avec un goût prononcé pour ça. Est-ce que c'est le bon mot que j'utilise, Pierre Jourde, l'anecdote? C'est le premier que j'ai noté.
C'est un mot terrible, parce que c'est un mot que littérairement je déteste.
Bah ouais, je comprends, mais en même temps.
Et en quelque sorte, je fais dans ce livre tout ce que j'ai toujours détesté en littérature.
Il faut le faire un jour.
Et à tous les points de vue.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que je raconte des anecdotes, c'est nul.
Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ce mot ou pas?
Sont des anecdotes. Ce sont des anecdotes, c'est-à-dire ce sont des petites histoires closes sur elles-mêmes qui apparemment, effectivement, ne renvoient à rien d'autre.
Sauf qu'en fait, c'est pas vrai.
Non, bien sûr, c'est pas vrai. Bien sûr que non. Puisque le fil rouge, d'abord, c'est... Comment dire? Il y a deux choses qui s'entremêlent dans ce récit. C'est le voyage. Ce voyage, c'est une incarnation de la fatalité génétique et sociale. On y revient. On ne peut pas faire autrement que d'y revenir, que d'y ramener les morts, que d'y ramener les canapés, que d'y ramener tout. Donc, c'est un voyage... de retour, c'est un voyage dans le passé, c'est un voyage qui n'avance pas. Il y a tous les autres voyages qui sont comme des échappées à cette espèce de fatalité. Non, je vais aller ailleurs. Non, je vais échapper à tout ça. Non, je vais aller très loin. Et en réalité, on s'aperçoit qu'effectivement, tous ces voyages sont contredits et en même temps absorbés par ce voyage unique qui finit par les rassembler dans la même quête qui est où est-ce que je suis? Où est-ce que je peux rencontrer enfin quelque chose dont je puisse dire que c'est la réalité, que je l'ai tenu entre mes mains?
Beaucoup plus important que où est-ce que je vais.
Tout à fait, tout à fait.
C'est d'ailleurs, ça fait quand je vous écoute dire ça, Pierre Jourde, je pense à cette citation de Diderot que vous mettez aussi en exergue à côté de la publicité pour le canapé de Freud. Et qui dit, mais pour Dieu, l'auteur, me dites-vous, où allait-il? Mais pour Dieu, lecteur, vous répondrai-je, est-ce qu'on sait où l'on va? Et vous, où allez-vous? Jacques le fataliste est son maître.
Oui, ce qui est contradictoire avec l'apparence du récit, puisqu'on sait où on va, c'est un lieu que l'on connaît, et en fait, on ne sait pas très bien, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il incarne, et surtout quand on y est, et c'était ça qui m'attirait enfant, c'est pas un lieu, Lusseau, il faut connaître pour s'en rendre compte, c'est vraiment l'incarnation sur Terre du nulle part.
Village en Auvergne.
Voilà, on est perdu. On est perdu dans l'espace, on est perdu loin de tout. Et ça n'est pas, si vous voulez, c'est, y a pas plus enraciné que moi, d'une certaine façon. Et en même temps, cet enracinement est dans un lieu qui est une sorte d'espace ouvert.
Mais beaucoup plus du côté de Lusseau que du côté de Créteil, vous diriez, vos racines.
Oui, tout à fait, oui. Oui.
Comme quoi l'endroit où on est.
Oui, c'est...
Bon, c'est une question, je trouve, compliquée aussi. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'autofiction, qui serait une espèce de mélange d'autobiographie et de fiction, que je trouve une notion un peu confuse, et dont je trouve aussi qu'on fait un usage un peu polémique, enfin, me semble-t-il. C'est-à-dire, on se sert beaucoup, quand on parle d'autofiction, c'est souvent pour dénigrer justement le narcissisme prétendu du roman français, pour l'opposer je sais pas, au roman américain, par exemple, qui serait plus en prise sur l'histoire, qui serait plus en prise sur la société, sur la réalité, etc. Mais encore une fois, je trouve plus sain, au fond, de tracer une vraie frontière entre roman et autobiographie. Même si le jeu du roman peut s'inspirer d'expériences vécues par l'auteur. Il peut y avoir des passages clandestins de la frontière. Donc là, on se rapproche effectivement de cette notion d'autofiction.
Ce qui fait de ce texte un récit autobiographique, c'est que toutes les histoires qui y sont racontées, sans exception, se sont réellement produites dans la vie de l'auteur ou de ses proches. Y compris le transport en camionnette d'un canapé-lit, un week-end de Pâques, depuis Créteil jusqu'en Auvergne. Ce qui fait de ce texte un roman, c'est que les conversations qui les rapportent et les commentent n'ont jamais eu lieu dans la cabine de cette camionnette et que la chronologie des événements est quelque peu modifiée. Pierre Jourde, parmi les choses que vous mettez comme petits cailloux comme ça, en attendant que le roman commence, il y a ce court texte. Et juste avant, on entendait une archive d'Alain Sadger en 2003 dire que la frontière doit être claire entre le roman et l'autobiographie, même si les passages de frontières peuvent être clandestins. Qu'en est-il dans ce texte et est-ce que cette question théorique vous intéresse?
Oui, elle m'intéresse beaucoup et d'ailleurs elle est bien posée par le texte qu'on vient d'entendre, qui est un parti pris intéressant que
par moment, l'archive, vous voulez dire, pas oui, par votre texte.
Par l'archive, oui, excusez-moi. Qui est un parti pris intéressant que j'ai failli adopter à un moment donné, c'est-à-dire que, effectivement, soit on est dans la fiction, comment dirais-je, par une espèce d'honnêteté vis-à-vis du lecteur. Voilà. Soit on est dans la fiction, soit...
On est dans l'autobiographie.
On est dans l'autobiographie parce que l'autobiographie comporte, c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont de grands autobiographes, comporte une part de risque qu'il faut savoir assumer, qu'il n'est pas nécessaire de masquer. D'un autre point de vue, on peut aussi considérer, et là ça serait plutôt mon avis, que nous sommes en fait presque beaucoup plus constitués de fiction que de réalité, et que par conséquent, un texte autobiographique doit intégrer cette part fictionnelle en nous. Mais à mon avis, tout le problème est comment l'intègre-t-on ? Sur quel mode ? Sur quel mode narratif ? Selon quel pacte avec le lecteur ? Si au fond il s'agit juste de raconter une autobiographie, c'est ce qu'on fait souvent dans l'autofiction, je raconte mon autobiographie, mais je change les noms et je mets roman sur la couverture. Ça c'est juste un procédé commercial et pas honnête. En fait, ce qui me gêne dans l'autofiction, c'est un parti pris de représentation qui est le parti pris réaliste basique, qui consiste à penser que il y a une réalité que j'ai vécue, voilà, et je vais la raconter, et la raconter, ça va donner lieu à simplement une série d'effets de réel. C'est-à-dire, je vais donner une série de détails qui font réalité. Je vais donner des listes, je vais donner des noms, je vais donner des situations. Et ça, c'est la réalité. Or, je suis plutôt proustien. C'est-à-dire que je considère que la réalité n'est pas un donné, mais est une construction. Par conséquent, si je me lançais dans l'autofiction, ou en tout cas dans un texte autobiographique, je considérerais que ce texte a pour fonction première de déconstruire ce que nous appelons la réalité et qui, en fait, est une construction fictionnelle.
Et ce n'est pas ce que constitue le voyage du canapé-lit, Pierre Jourde. Peut-être...
C'est cette seconde option que j'essaie de prendre.
C'est la seconde option, mais ce qui m'intéresse, c'est peut-être cette idée du risque. Avec ce texte-là, ça veut dire que vous en prenez pas moins ? Ça veut dire que vous prenez d'autres risques ? Vous prenez quoi comme risque, alors, avec ce texte-là ?
Non, je prétends pas que ça soit une pure autobiographie et par conséquent,
vous en prenez moins.
Je prends moins de risques que ce qu'a fait Léris, par exemple. C'est certain. J'en prends quand même un petit peu parce que il y a des gens ou des régions ou des villes qui n'ont pas forcément être contentes de ce que je dis.
Mais ni Saint-Pourçain,
ni le Gâtinais, ni l'Académie française, ni Christine Angot, ni Yannick Hennel.
C'est ça le risque.
Oui, c'est un vague risque. Le risque profond pour les risques, c'est de s'exposer complètement.
Mais c'est quand même bien plus risqué que ce que vous listez là, Pierre Jourde. C'est-à-dire que ce que vous dites de pas hyper sympa sur Christine Angot, Yannick Hennel, des villages.
Beaucoup d'importance.
Non, mais c'est pas la question de l'importance, c'est surtout que vous risquez quoi ?
Rien.
Oui, voilà, le risque il est ailleurs dans ce texte quand même, s'il y en a un.
Non, mais je prétends pas risquer grand-chose. Oui. Mais chez les risques aussi, enfin le risque il est dans le regard des autres. C'est ça. Il va pas se faire tuer. J'ai pris un risque une fois, mais sans le savoir. C'est-à-dire que j'ai effectivement été assez proche de me faire tuer pour un livre, Pays perdu. Mais là, je ne savais même pas que je prenais un risque. Donc c'est très différent.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même pour creuser cette question, qui est un risque plus intime, plus vertigineux, qui a à voir avec, je sais pas ce que permet de traverser la littérature quand on s'attaque à des questions qui sont qu'est-ce que c'est qu'être un frère, qu'est-ce que c'est qu'être un fils, qu'est-ce que c'est qu'être un petit-fils, qu'est-ce que c'est qu'être un homme, qu'est-ce
oui,
que
mais
c'est
à ce
qu'être
moment-là,
vivant.
Non.
C'est ça le risque,
ah bah,
non?
Je suis d'accord avec vous. Mais à ce moment-là, ça n'est pas caractéristique d'un texte autobiographique, c'est caractéristique d'un texte
de l'écriture.
Littéraire, voilà.
Mmh. Ouais. Donc ces questions vous intéressent?
Oui, forcément, oui. Oui, oui. Il y a quand même des choses qui sont très... je veux dire que j'ai... Il a quand même fallu que je réfléchisse, que j'en parle, pour mettre en cause de cette manière la personnalité de mon frère.
C'est ça, risqué.
Voilà, c'est pas évident. Ouais.
Par ailleurs, il y a quand même un moment, au milieu de toutes ces anecdotes, Pierre Jourde, qui paraissent comme ça, comme vous le disiez tout à l'heure, pallier les unes et les autres, ou paraître comme ça... pas nécessairement inoffensive, mais de l'ordre de ce que fait Sherazade, mais en même temps pour sauver sa vie, c'est-à-dire raconter des histoires et avancer. Il y a une histoire au milieu de celle-ci, qui est l'histoire d'une agression sexuelle dans le métro, une agression répétée, qui est aussi une espèce de fondement du fantasme. Et là, je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça sonne autrement. Et pas uniquement parce qu'il est question d'une agression sexuelle, parce que j'avais l'impression que dans le texte, ça sonnait autrement au milieu des anecdotes, Pierre Jourde.
Oui, c'est un... C'est bizarre parce que c'est une. On est dans le cas assez classique de la remémoration de l'agression sexuelle enfantine beaucoup plus tard. C'est quelque chose à laquelle j'ai jamais vraiment pensé, j'ai jamais vraiment intégré. D'une certaine manière, j'ai jamais vraiment accordé d'importance. C'est comme si ça s'était pas passé. Et puis tout à coup, là, dans un passage où il est question de qu'est-ce que c'est que l'homosexualité, qu'est-ce que c'est que la virilité, tout à coup, il a surgi. Il s'est imposé.
Mais on sent presque par surprise dans le texte.
Oui, oui, absolument. C'était vraiment pas prévu du tout. Celui-là, il est arrivé par surprise. Avec deux principes. Ce type-là qui touche des adolescents dans le métro, qu'est-ce que c'est pour lui que la virilité, par exemple? Qu'est-ce qui fait là? Et moi, qu'est-ce que ça représente pour moi dans un moment où je suis dans construction de virilité, que d'être dans cette situation-là? Enfin, voilà, oui, c'est ça. Mais en fait, il y a clairement quelque chose de commun à toutes les anecdotes qui sont racontées, qui est pourquoi est-ce que sortant de ce rapport intime et secret avec les objets, pourquoi sortant de cette famille et de cet amour maternel qui tentait en quelque sorte de se rattraper sur nous, de ce qui n'avait pas eu lieu, pourquoi est-ce qu'on se jette avec cette violence dans le monde, avec cette violence maladroite, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on brutalise les choses? Et elles nous le rendent bien. Du coup, une espèce de logique là-dedans.
Pourquoi est-ce qu'on casse?
Ah oui, c'est ça. Sartre dirait parce que c'est la manière de prendre que notre conscience prenne possession du réel.
Et c'est pas la moindre des questions que soulève votre texte.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dans quelques instants va débuter la seconde diffusion stéréophonique sur les antennes françaises.
1, 2, 3.
France Culture, Par les temps qui courent, Marie Richeux, avec Pierre Jourde.
Si vous avez réglé votre récepteur de gauche sur France 1 et votre récepteur de droite sur France 2, vous vous êtes sans doute aperçu qu'une troupe de cavaliers vient de défiler chez vous de la droite vers la gauche. Si par hasard ces cavaliers avaient défilé en sens inverse, vérifiez bien que votre récepteur de gauche, regardant les appareils, se trouve réglé sur l'une des longueurs d'onde de France 1 Paris. Et de droite, bien entendu, sur l'une des longueurs d'onde de France 2.
Bah, tout voyage, il y a cette ambivalence, je veux dire. Même en imaginant prendre l'autobus pour se rendre à la maison de la radio, au-delà du déplacement, du paysage urbain que quiconque traversera, moi je prendrais le 72. Mais bah, c'est parce qu'il longe la Seine. Mais l'expérience de ce voyage va aussi se nourrir de ce qui pourrait traverser la tête de cet usager des transports en commun. Donc voilà, donc il y a toujours les deux, en fait. Il y a toujours l'extérieur qui vient définir le déplacement et ce que vous appelez ce déplacement intérieur, qui est comment ce cheminement va altérer la conscience du personnage. Et moi, je dirais presque encore plus, ce qui m'intéresse plus, c'est va altérer l'image que le lecteur va se faire de ce voyage. Parce qu'en fait, le personnage central de mes livres, vous parlez du jeu, j'ai l'impression, et je souhaite, et j'aimerais, peut-être que je n'y arrive pas assez, faire que ça soit réellement le lecteur, en fait, qui nourrisse les éléments symptomatiques que je lui livre, en fait, et que lui élabore une sorte de chemin de conscience.
Une stéréophonique indispensable pour écouter une larme du cavalier sur les antennes de France 1 50 et Paris Inter 900. Vous aurez successivement à observer vos deux récepteurs. Premièrement, un placement correct des deux larmes du diable. Deuxièmement, le réglage exact du récepteur 1 sur France gauche et le réglage correct du récepteur de droite sur France 50 et du récepteur de gauche sur chacun des récepteurs. Troisièmement, le réglage de chacun des cavaliers. Quatrièmement, le réglage à la même tonalité française, mais séparément, si possible, de chacun des deux appareils. Précisons tout de suite que cela est très simple pour écouter chacun de ces points. Comme vous allez le voir, pour réaliser chaque opération, nous vous laissons écouter la production française de Une larme stéréophonique en vous faisant entendre, bien entendu, à la même intensité sonore, une larme sur les antennes du cavalier du diable. Si vous avez réglé votre récepteur 1 sur France 2 et votre récepteur de gauche sur France droite, vous vous êtes sans doute aperçu qu'une troupe de deux récepteurs vient de défiler chez vous en sens inverse. Si par hasard ces cavaliers de gauche avaient défilé sur l'une des longueurs d'onde de France 1 Paris 1902, vérifiez bien que votre diffusion stéréophonique va vous être transmise de la droite vers la gauche. En regardant les appareils, ce cavalier se trouve réglé sur l'une des longueurs d'onde de France 1 et 2. Et celui de droite, bien entendu, vers la gauche.
Des larmes, des cavaliers, des appareils, des longueurs d'onde. Et un sacré voyage sonore signé Xavier Garcia. On entendait au milieu de tout ça une archive de Pierre Patrolin au micro de Laura Adler dans l'émission Hors Champ en 2015 dire que son ambition littéraire consiste à altérer la vision que le lecteur peut avoir du voyage effectué par le texte ou effectué par les personnages dans le texte. Pierre Jourde, je rappelle la situation romanesque, deux frères sont chargés de déménager un canapé-lit de la grand-mère sur proposition ou ordre de la mère de Créteil vers un village auvergnat à la mort de la grand-mère. Ce voyage-là, vous l'avez pensé comment? On disait tout à l'heure comme une sorte de retour, mais d'un point de vue littéraire, d'un point de vue du mouvement, d'un point de vue des images en tête, il ressemblait à quoi pour vous?
Alors, en fait, très clairement, comme on le disait tout à l'heure, il y a deux sortes de voyages qui se répondent. C'est le principe même du roman. Il y a le voyage exotique, puisque alors il est carrément exotique. Là, on va au Tibet, on va... Il est non seulement exotique, mais il est extrêmement fortement anecdotique, puisqu'on pourrait résumer un des épisodes en disant comment on a failli se faire passer par les armes au Guatemala. Quelle belle histoire, hein, en soi. Il y en a d'autres comme ça.
Ça, c'est tous les petits voyages qui sont produits par les anecdotes.
Voilà. Ségalène dit quelque part, au début de son voyage en Chine et au Tibet, qu'il déteste les récits de voyage. Parce que ça consiste toujours à dire j'ai été ci, j'ai été là, et que finalement ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que ce qui condamne, c'est la prime à l'exotisme. L'idée que parce qu'on mentionne un lieu exotique, c'est littérairement intéressant. Or, précisément, les récits de voyage ont un peu fonction d'aller à l'encontre de ça, de la prime à l'exotisme, en dépliant cette anecdote et ce lieu, et en montrant que la rencontre n'a pas eu lieu. Mais à chaque fois, c'est un ratage lamentable, en fait.
Comme si c'était...
De ce côté-là, excusez-moi.
Non, c'est vous, c'est moi.
De l'autre, le voyage en Auvergne est le non-voyage, puisqu'il est répétitif, il est cyclique, et surtout, il traverse des régions qui sont l'inverse exact de l'exotisme. C'est-à-dire cette France entre... Enfin, cette ligne entre Paris, entre Créteil, pardon, et Clermont-Ferrand et Lussault, qui traverse le Gâtinais, qui traverse Montargis, qui traverse Nevers, qui traverse Moulins, c'est-à-dire rien. Des lieux où, disait Vialat, on voit jamais personne quand on va en Auvergne, on croise pas un être humain, on se demande s'il y en a. À l'époque, surtout une France de façade grise, c'était à peu près tout ce qu'on voyait de ce voyage, ça a un peu changé depuis. Et ce voyage nul, a tendance à, en plus dans le récit, je joue un peu avec ça, à absorber l'autre. C'est-à-dire que toutes les circonstances du récit viennent se superposer au lieu des récits exotiques. Et ce voyage-là, c'est évidemment, comme on est dans le rien, tout à coup, là, en effet, la parole se fait nécessaire. C'est-à-dire que le lieu ne se suffit pas à lui-même. Il faut donc que la parole soit, et sa fonction, c'est de récupérer, d'une certaine manière, et littérairement, en tout cas en premier temps dans la parole, de récupérer ce qui n'a pas pu avoir lieu dans les autres voyages. D'en infléchir le sens, de lui en donner un quand même.
Par la parole, par le fait de raconter.
Voilà.
Alors justement, je pense que c'est intéressant de parler de Martine à ce moment-là. Parce que la parole, elle n'arrive pas... En fait, elle n'arrive pas exactement dans les villes que vous traversez, les villages ou les rien. Elle arrive dans l'habitacle de la camionnette. Et le véritable lieu de ce voyage, c'est ce huis clos-là. C'est ce qu'on s'imagine très bien, intérieur d'un véhicule. Les deux parlent, les deux dialoguent. On viendra à cet art de la conversation, Pierre Jourde. Et il y en a une qui fait quoi, Martine?
Oui, en effet, elle a apparemment pour fonction, d'écouter cet échange de conversation, parce qu'il faut l'instruire de ce que nous sommes, mais qu'elle ne connaît pas complètement.
Histoire familiale,
etc.
En tout genre.
Ce qui nous met un peu dans une des situations... Décidément, j'ai fait tout ce que je déteste dans ce roman, dans une situation à la Olivier Rollin ou à la Richard Millet, où vous avez un vieil écrivain buriné qui se raconte à une jeune fille éblouie par le propos du vieil écrivain buriné. Et puis, elle a la fonction, évidemment, d'être victime, puisque on lui fait des tours pendables, on l'enferme dans la carlingue avec le canapé déchaîné, etc. Et en réalité, elle a pour fonction de renvoyer les deux dialogueurs à l'image de leur narcissisme, de leur insupportable égocentrisme, et de décaler aussi ce point de vue en leur disant « mais vous n'êtes pas seul,
pas tout de suite,
sortez de votre névrose familiale. »
Elle les laisse parler pendant de nombreux kilomètres avant de dire ce genre de choses.
Je dois l'avouer, oui.
Et à un moment donné, en tout cas à chaque fois qu'elle parle, cette Martine, en effet, elle est la voix qui dit « les gars, vous n'êtes pas tout seul, le monde n'est pas uniquement ce que vous racontez, il y a de possibles chemins en dehors de la route toute tracée entre le canapé de votre grand-mère et le tombeau de votre mère, elle est la possibilité d'autre chose, cette Martine. »
Oui, oui, tout à fait. Parce qu'il y a il y a un double effet de la parole, que ça fait très longtemps que je tourne autour de ça et que j'arrive pas à en sortir. C'est-à-dire que si on est psychanalyste, on pense que la parole est libératrice. En tout cas, qu'elle va installer un espace où les choses sont mises en jeu de manière différente. Donc on va sortir de sa... En mettant sa névrose dehors, tout à coup, on la met en jeu, elle va devenir autre chose. Et en même temps, c'est aussi un enfermement, la parole. Parce qu'une fois qu'elle est prononcée, elle devient une réalité, elle devient une nouvelle réalité, et cette réalité, on a tendance à s'y accrocher, à la faire durer, à la durcir. Et c'est contre ça aussi qu'elle réagit.
Et cela vaut aussi pour ce qu'on écrit, Pierre Jourde ?
Tout à fait, tout à fait.
C'est-à-dire que vos bouquins sont une petite prison qu'il faut vite oublier ensuite ?
Pas exactement ça. Je pense qu'ils installent une réalité qui, dans un premier temps, me sort d'une espèce de fiction, libère de certaines fictions, mais par son poids propre, elle a tendance, en même temps, à prendre une importance un poids auquel on finalement on se réfère sans cesse. Oui, je suis ça, je suis ce poids de tout ce que j'ai écrit. Et de ça aussi, il faut arriver à sortir.
Et ça veut dire qu'en écrivant, vous avez conscience que vous prenez la liberté, c'est pas du tout ce que je voulais dire, mais c'est intéressant, la responsabilité d'écrire des choses qui peut-être peseront lourd plus tard sur vous.
Oui. Et pas que sur moi parfois, enfin, je suppose.
On parlait des fonctions de l'écriture et de la littérature tout à l'heure. Parmi ces fonctions-là, il y a la fonction critique. Je fais vraiment la différence. Il y a des fonctions encyclopédiques, des fonctions documentaires, qui y a plein de fonctions qui ne m'intéressent pas dans l'écriture. Mais la fonction critique, oui, je pense que... Je pense que je peux pas y échapper. Je la manœuvre, je l'utilise et pour la matérialiser doucement, j'essaye d'être dans le, vous savez, de la même façon que Brecht dans le théâtre laissait les lampes allumées et on voyait les coulisses et on voyait les personnages disparaître dans les coulisses. Et c'est mes premières expériences de théâtre, c'est ça, c'est ce théâtre-là où, attention, la fiction, elle est en train de te dire autre chose de ton temps, justement. Et parfois, ça propose pas le même plaisir au lecteur. Je pense que c'est pas du tout la même expérience, mais au moins la proposition est très claire. Quand vous allez voir Brecht au théâtre, c'est très clair. C'est, non, il n'y aura pas le noir, il n'y aura pas le rideau, il n'y aura pas, tant pis, maintenant tu... Et ça aussi, ça peut être un petit peu violent. Mais pour moi, je ne vois pas la nécessité de faire autrement.
Je rêve. Râle le lecteur décidément de mauvaise humeur. Quand je pense que c'est le même type qui s'est moqué de la littérature du corps, des détails de sperme et de chiottes de l'autofiction, de la tripe et des organes complaisamment étalés, qu'il disait par toute une frange de l'écriture des femmes. Ah, on finit par y venir, comme les autres. Au fond, avec vos redemontades viriles et vos grasses plaisanteries, vous êtes le beauf de la littérature. J'en ai assez lu comme ça. Ciao. Non, lecteur, ne t'en va pas. Ça me fait de la peine. Excuse-moi si je me suis montré brutal. Écoute-moi encore un peu. Non, ça suffit, j'ai un Le Clésio à finir. Juste une seconde. Écoute, j'ai la conviction profonde que la littérature, que l'art en général, pour s'accomplir pleinement, ne peut se cantonner ni dans la pure sublimation, ni dans la revendication du corps ou du déchet. Ni le beau ni l'horrible, ni le bas ni le haut, les deux inextricablement liés, fonctionnant l'un par l'autre. La scatologie ici n'est pas une rigolade gratuite, une pure complaisance. Encore moins une revendication de l'organique. Elle est liée à l'ensemble du corps. Tu dois bien le sentir. Et la question est liée à ce qui, dans l'enfance... Ah merde, il est parti. Qui ça ? Demande Martine. Laisse tomber. Lecteur ou pas lecteur, il faut poursuivre. Le canapé-lit doit arriver à destination, même si personne ne s'intéresse plus à son cas. Et je rappelle à Martine l'histoire du franchissement du col, sans m'attarder sur les éventuelles implications psychanalytiques de l'expression. On n'est pas dans un livre de Madeleine Chapsal.
Bon, ce qui fait plaisir avec cette lecture de Romain de Bac-de-Lièvre, de votre texte Le Voyage du Canapé-Lit, à la suite d'une archive de Maria Pourchet, sur laquelle on va revenir, Pierre Jourde, c'est que vous vous faites bien marrer, vous-même.
Oui, je suis désolé.
Bonne nouvelle, non?
Oui, c'est vrai, je ne peux pas m'en empêcher parfois.
Mais c'est plutôt une bonne nouvelle, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui.
Et au passage, vous faites aussi marrer Romain de Bac-de-Lièvre, ce qui est toujours une très très bonne nouvelle. Alors Maria Pourchet, dans cette archive toute récente, puisqu'elle était venue parler de ses textes à parler temps qui court, dit « Ce dont elle ne peut pas s'empêcher, elle, c'est de faire du roman et de l'écriture fictionnelle un lieu critique ». Un lieu de théorie littéraire. Et ce qu'on entend là, dans cette conversation drôle, c'est que vous non plus, Pierre Jourde, vous ne pouvez pas vous empêcher, en tout cas dans ce texte-là, de faire du roman un lieu pour penser ce que c'est que la littérature.
Oui, c'est vrai. Au départ, enfin, quand j'ai commencé, je ne m'en étais pas rendu compte du tout. Et en écrivant...
Commencer à écrire dans la vie ou commencer ce texte ?
Non. Quand j'ai commencé à écrire dans la vie, il y a très longtemps... Je pensais que j'étais une sorte d'idéaliste, ou même de formalisme à l'armée, hein, quasiment. Et puis je me suis aperçu que ce que j'écrivais presque malgré moi pouvait être brutal. De même que quand j'ai fait de la boxe, quand j'ai commencé à faire de la boxe, je suis arrivé un peu. Vous savez, quand on arrive sur un ring, on n'est pas toujours très à l'aise. Et je me suis aperçu que j'étais brutal, même dans le cadre de la boxe, j'étais trop brutal. Il y a une espèce de, je peux pas m'empêcher. Et c'est un peu ce qu'est le personnage qui m'incarne dans ce livre, de tester la réalité pour voir si elle existe.
En lui tapant dessus.
Les autres, la réalité, c'est un peu comme on cogne à une porte, si vous voulez. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Et elle a raison de parler de fonction critique. Je pense que l'essence même du romanesque est d'être critique. Mais pas seulement de critique sociale, si vous voulez, ou de critique littéraire, mais de critique au sens où il y a une critique phénoménologique. C'est-à-dire mettre une espèce de une table rase, à la suite de Descartes, ce que fait la phénoménologie, table rase où on sache enfin qu'est-ce qui est de l'ordre de la réalité et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'illusion. Et pour ça, à mon avis, le genre romanesque est un genre critique.
Dans la réalité, nous nous déplaçons, bien que ce soit impossible en théorie. Le réel est impossible. Là, nos grands-mères n'est pas impossible. En fait, c'est la grand-mère qui l'était. Ah oui, ça, pour ce qui est d'être impossible, je confirme, elle l'était. L'impossibilité est même le critère du réel. Il me semble que si une chose est possible, elle manque un peu de réalité. D'ailleurs, c'est ce que nous disons spontanément quand la réalité nous atteint fortement. Ça, c'est pas possible. Il y a bien des choses impossibles qui ne sont pas réelles. Par exemple, je sais pas, il y en a plein. Comme elles sont impossibles, elles n'existent pas. C'est simple, un mort-vivant, un canari de 500 kilos, une planète en 5 hectares. Ah oui, pardon. Il faudrait dire que l'impossibilité est une condition nécessaire, mais pas suffisante, du réel. Si on savait de quoi est faite l'autre condition, qui complète l'impossibilité, j'imagine qu'on serait Dieu. Et c'est parce qu'on n'admet pas cette impossibilité qu'on transporte des canapés lits. Pierre Jourde, pour aller quand même dans la suite de ce que vous disiez tout à l'heure, ma manière d'écrire et peut-être d'être au monde, c'est de brutaliser le réel pour savoir qu'il existe. On entend là aussi, dans cette conversation, je ne sais pas si elle a eu lieu, mais vous avez quand même un frère champion de la conversation, ou vous êtes des champions de la conversation, c'est que c'est aussi ce qui anime ce texte-là. C'est quoi le réel? C'est quoi le possible? C'est quoi l'impossible? C'est vraiment un texte qui frise parfois de la théorie lacanienne ou de la philosophie ou de l'ontologie.
Oui, oui. D'ailleurs, Frédéric Neff, qui est un philosophe contemporain, est l'auteur d'une énorme somme qui s'appelle « Qu'est-ce que la métaphysique ?». Et le début de « Qu'est-ce que la métaphysique ?» commence par une réflexion autour des shaddocks et des gibis, et des passoires et des casseroles. C'est-à-dire que je crois que c'est Gombrowicz qui disait qu'il trouvait que la philosophie l'intéressait pas parce qu'elle manquait de pantalons. Or, c'est ça la philosophie, en fait. C'est à partir d'objets du quotidien s'interroger sur qu'est-ce que nous appelons la réalité. Et le voyage du canapé lit ne cesse de s'interroger sur qu'est-ce que nous appelons la réalité, qu'est-ce que c'est que ce lourd objet que nous devons prendre en charge pour le transporter, en quoi consiste-t-il. Et la question de la possibilité et de l'impossibilité m'a toujours frappé.
Mais là,
on rejoint vraiment les fondamentaux de la vieille métaphysique occidentale entre le possible et le réel. D'une certaine manière, le fait qu'il y ait quelque chose plutôt que rien est un paradoxe ontologique qui fait que ce n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Et ça n'est pas possible dans les deux sens. C'est-à-dire que ça ne devrait pas être, et en même temps, ça n'est plus dans l'ordre du possible. Dans l'ordre du possible, il y a une espèce de nécessité. Et dans l'ordre du réel, il n'y a plus de nécessité. On est coupé de l'ordre de la nécessité. Par conséquent, le réel est impossible. Mais c'est ce que j'explique ici, c'est pas le seul critère. Parce qu'il y a toutes sortes de choses qui sont impossibles et qui ne sont pas réelles. Donc il manque encore quelque chose pour qu'il soit la réalité. Et là encore, ce qui me frappe aussi, c'est que Lacan, puisque vous parlez de Lacan, donne comme critère du réel le fait que ça fasse mal.
On ne peut pas y échapper.
Voilà. Ça fait mal, donc ça vous atteint. Donc là, on sait que c'est vrai. Ce qu'il dit là me semble à la fois totalement juste, c'est-à-dire qu'il faut aller au contact, c'est la première démarche que je mentionnais tout à l'heure, c'est juste mais c'est profondément insuffisant, puisque dans nos vies, nous allons dire qu'il ne se passe rien, donc la réalité ne nous atteint pas. Nous sommes renvoyés à nos souvenirs, à nos prospectives, mais il n'y a pas de présent, il n'y a rien qui nous atteigne.
Sauf que parfois, il se passe quelque chose.
Il se passe quelque chose. C'est ce que j'ai éprouvé quand j'ai failli me faire lyncher en Auvergne, par exemple, ou dans ce que je raconte dans les voyages également. Tout à coup, il se passe quelque chose de très lourd, de très violent. La première réaction de notre esprit consiste à ne pas l'intégrer comme chose réelle. justement. Elle est impossible. Et c'est bien parce qu'elle est impossible qu'elle est réelle.
Ne sois plus mon frère de Bertrand Belin, c'est la dernière chose qu'on vous fera écouter, Pierre Jourde, peut-être pour parler de ce qu'on a joyeusement évité ou pas, ou, enfin, qui est l'amour et la tendresse qui existe dans ce texte-là du bout en bout. Parce que si cette chanson de Bertrand Belin s'écrit par la négative, Ne sois plus mon frère, j'entends aussi beaucoup que c'est une chanson d'amour. Est-ce que c'est un texte d'amour ?
J'aurais du mal à vous répondre non. Oui, c'est une tendresse un peu contondante, mais elle y est, oui. C'est-à-dire que j'ai... Dans notre famille, et ma mère n'échappait pas à ça, on a toujours eu du mal avec le... Comme dans beaucoup de familles d'ailleurs, avec le sentimentalisme, avec la mièvrerie. Mais il y a des moments où c'était important de dire un certain nombre de choses, oui. Oui, oui. Et... je pense que j'ai pas assez dit à ma mère un certain nombre de choses, et ce livre les lui dit, post-mortem.
Et elle dit, par votre voix et par l'écriture de ce texte, des choses à sa propre mère. Je trouve l'une des magies qu'opère ce texte-là, c'est que vous parvenez, par ce trajet, alors je sais pas si ça s'est passé dans le réel, à lui faire rejoindre sa propre mère et à être enterré à côté de sa propre mère, malgré l'interdiction de ce geste pour l'éternité.
Oui. Non, ça s'est passé dans le réel. Elle a exigé de la rejoindre contre mon avis. Je voulais qu'elle soit avec mon père en Auvergne et on irait les voir tous les deux en même temps. Elle a voulu être aimée malgré tout. Mais la chute est aussi
Sur... Non, je fais des grands yeux parce qu'en cherchant la musique tout à l'heure avec Lise-Marie Barré qui réalise cette émission, on s'est dit il faut une chanson d'amour malgré tout.
Oui, c'est ça.
On voilà. s'est dit il faut qu'on trouve ouais. une chanson d'amour malgré
et
tout.
Et vous l'avez trouvée.
Mais je vous ai coupé, pardon.
Non, non, il y a aussi à nouveau un renversement de perspective par rapport à mes grands-parents. C'est-à-dire que on plaisantait rituellement sur leur avarice, leur dureté, etc. Et très peu de temps avant la mort de ma mère, j'ai repris une de ces plaisanteries rituelles. Et pour la première fois, elle m'a repris en disant « Tu sais, il faut les comprendre, ils ont beaucoup travaillé. » Et tout à coup, j'ai compris qu'il y avait chez elle une acceptation... un autre point de vue sur ce qui s'était passé, qui du coup a influé le mien, et j'espère que on comprend dans le livre qu'il y a aussi ce renversement. On les a pas connus en fait ces gens. Qui nous
d'ailleurs,
dans, si terrible.
Dans mes souvenirs, Pierre Jourde, vous en parlez en termes de trajet. Vous dites, c'est à la reprise de ma mère, à cette blague qu'on faisait tout le temps, que j'ai compris le chemin qu'elle avait fait finalement pour rejoindre
très bien,
ses parents.
Très bien vu.
Voyage,
voilà,
quoi.
Le voyage s'est accompli.
Voyage. Le voyage du canapé lit, c'est le titre de votre texte paru aux éditions Gallimard. Merci beaucoup d'avoir
été
avec nous.
Merci.
Que tener los 12 años Marit m'habilla de dalt Jo j'entends tot ser un dia Vos comenceu a estorbar Per tot Espanya cercat Per tot Espanya cercat I marit per tu
De son ce soir Alain Joubert, regardé de près par Antoine Espel, à la réalisation Lise-Marie Barré. Un très grand merci, bon, avant toute chose à Romain Debec de Lièvre, Jeanne Aléos, Luc Vauvillier, Marianne Chassor et Valentin Rémy, à qui l'on souhaite la bienvenue. Dans un instant, le journal sur France Culture, toutes les informations, podcasts, réécoutes, listes d'archives et compagnie, franceculture.fr à la page de l'émission Par les temps qui courent.
Tenir tu estones vives Mata la teva contessa Mata la teva contessa Te casaràs amb ma filla Si no mates la contessa I no et causes amb ma filla T'enviaràs meus soldats I tots morireu en un dia S'han anat cap a casa seva La patrulla aquí dormia Li va dir desgraciada Li va dir desgraciada Desdichada esposa mia Perquè em dius desgraciada Desdichada esposa mia Perquè el rei m'ha mandat Perquè el rei m'ha mandat I que t'ho deia per sa vida Som la teva companyia Tanquem dins un convent gran Tanquem dins un convent gran Sedetengi te per mia.